Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ça va ?
Bonjour, ça va ?
Elle est là ?
Oui,
bon,
oui.
Super, merci. Hein. Merci. Au revoir.
Là, c'est un début de ville. Donc, vous allez voir, en fait, c'est un terrain vague, en fait. Et ça fait maintenant 2 ans que les familles sont sur cet endroit, sur ce lieu de vie. On appelle ça des lieux de vie. Il y avait des voyageurs, il y a des familles qui sont parties, d'autres qui sont revenues. Voilà. Là, c'est plutôt une population serbe. Et donc, on va aller rencontrer Teresa. Quand on rencontre pour la première fois des familles, c'est vrai qu'on va retenir les prénoms et on essaye d'être dans une relation, j'allais dire, fraternelle tout de suite. Donc on appelle les personnes par leur prénom, on essaie de s'en souvenir, les enfants aussi. Puis c'est des, voilà, c'est de femme à femme, d'homme à homme. Voilà, c'est de l'humain avant tout.
Nous sommes à Toulouse, dans l'un des bidonvilles de la ville. Il en existe un certain nombre, bien réel et pourtant invisible aux yeux de la majorité d'entre nous qui passons sans voir. Aujourd'hui, nous voyons. Nous sommes avec Constance, Caroline et Guillaume, 3 professeurs des écoles de l'antenne scolaire mobile de l'ensemble scolaire Saint-Joseph, 3 enseignants relais qui interviennent auprès de populations en grande précarité. Leur mission ? Au plus près des familles, accompagner les enfants vers la scolarité, les mettre en route vers l'école. Un projet qui, dans un esprit lassalien et dans le sillage de réalisations plus anciennes, est le fruit d'une réflexion, expérience de terrain.
Cette porte d'entrée, c'est vraiment l'habitat précaire. Parce que ces familles-là, elles sont en grande difficulté et elles n'ont pas accès à tout.
Nous sommes à présent en voiture avec Caroline, en route vers l'un de ces lieux de vie.
Donc l'habitat précaire, ça peut être des familles, gens du voyage, qui sont sur un terrain illicite et donc qui ne sont pas accompagnés par des travailleurs sociaux, ou alors des familles qui se trouvent sur des terrains, dans des squats ou des bidonvilles, qui là aussi sont donc évidemment en habitat précaire, puisque campement, bidonville, enfin voilà, ce sont des habitats qui sont faits de briques et de brocs, qui y récupèrent des bâches, ils récupèrent des palettes, ils construisent des cabanes. En fait, ce que nos enfants à nous, de petits Français, enfin de petits locaux, en fait, font pour s'amuser, ben, eux, ils le font pour survivre. Voilà.
C'est une mission dans laquelle tout était inventé. Les classes mobiles, un projet qui a évolué.
En fait, c'est un projet qui évolue parce que les populations évoluent, parce que la société évolue. Aujourd'hui, il y a 20 ans, en 97, quand il y avait les camions écoles, en fait, c'est normal, il y avait peu de migrants. Il y avait des gens du voyage qui étaient sur des terrains, et là, on sentait bien un besoin de scolarisation. Mais il y avait peu de migrants. Avec la fermeture de l'Italie, il y a 2-3 ans, des frontières, eh bien, les migrants sont plus passés par l'est de la France, mais en fait, ils sont remontés par l'Espagne. Et la première grande ville qui se présente à eux, c'est Toulouse. Donc, depuis 2017, il y a eu une augmentation significative des migrants. Et de ce fait, la mission a évolué, puisque les camions écoles qui allaient sur des terrains licites se trouvaient en bordure de terrains illicites, puisqu'ils n'étaient pas autorisés ceux-là, et où des migrants et des gens du voyage s'installaient. Donc pourquoi accompagner à la scolarité des enfants parce qu'ils sont sur un terrain délimité et autorisé, et fermer les yeux sur les autres? Donc ça n'avait pas de sens. Il a fallu repenser la mission et la réorienter pour se dire, ces enfants-là, ils ont autant le droit que les autres d'aller à l'école. Les familles, elles ont autant le droit d'être accompagnées. Peut-être qu'il faut repenser notre façon d'intervenir. Et est-ce que vraiment ça a du sens de mettre des enfants dans un camion Alors qu'en fait, il y a une école qui est tout près, qui peut les accueillir. Est-ce qu'on pourrait pas penser à une scolarisation en direct, sans passer par le camion école? Et maintenant, c'est ça, la mission. La mission, c'est d'arrêter l'entre-soi, de maintenir l'exclusion de ces enfants, et au maximum, les amener vers l'école ordinaire. Et parce que ce sont des enfants ordinaires, ça reste des enfants.
Nous venons de retrouver Constance dans l'un de ces lieux de vie où vivent avec des enfants en âge scolaire plusieurs familles serbes. Constance et Caroline les ont déjà rencontrés. Elles ne sont pas là pour leur faire l'école, nous l'avons bien compris, mais pour ici, en France, où ils vivent actuellement, les aider à s'insérer dans le circuit scolaire. Dans quelques jours, Martigny, presque 7 ans, au terme des évaluations réalisées au centre d'accueil de Bellefontaine, dont nous reparlerons, fera pour la première fois son entrée à l'école.
Donc on va prendre rendez-vous pour Martigny, pour aller faire le test dans sa langue maternelle, pour voir un petit peu ce qu'il est capable de faire à l'école. Et ça, nous, on va prendre le rendez-vous. Et on ira avec la maman.
Il est capable de faire rien.
Oui, mais justement, on est là pour ça. Mais est-ce que
je vous dis, par exemple, c'est parce qu'il ne connaît pas les lettres, il ne sait pas dire...
Martigny, c'est pas grave.
Mais de toute façon, on est obligé de passer par l'espace d'accueil.
Bah oui.
Et en fait, nous, on pourrait le dire, mais en fait, il faut que les enseignantes de l'espace d'accueil se rendre compte par elle-même que Martigny, c'est...
Mais il faut la langue
rome. Serbe. Un rome ?
Pas serbe.
Oui, mais en fait, tu sais, le test, ça va être... Est-ce qu'il est capable d'écrire son prénom ? Est-ce qu'il est capable de tenir son stylo ? Enfin, c'est très simple. Ça va pas être compliqué.
Il est à l'école ?
Ouais. Mais on est obligé de le faire. Voilà, donc nous, avec Caroline, on va prendre rendez-vous à Bellefontaine. Oui. Je pense qu'on ira avec elle pour le rendez-vous. Est-ce que tu peux lui expliquer la première étape qui est qu'avec nous, on va aller faire le test à Bellefontaine avec Martigny, avec elle. Ça, tu peux lui expliquer?
Ouais. Mora déjà se pour rendez-vous l'ENSA, Bellefontaine Martinez. Déjà, elle te dit qu'on a un côté qu'à son métro, Bellefontaine. Ça, c'est quoi?
Ok, donc moi, je prends en photo ça. Donc, dès que j'ai le rendez-vous, ce que je fais, c'est que je t'appelle pour te dire quand on a le rendez-vous. Et nous, soit moi, soit Caroline, on vient les chercher et on va au rendez-vous ensemble.
D'accord.
D'accord?
Oui.
Voilà. Et là, moi, je prends en photo. Tu peux lui expliquer à la maman. En fait, je prends en photo pour les donner à l'école quand on fera l'inscription.
On espère au moins que ça va pas très loin.
Oui.
Parce que comme il connaît pas la rue, tout ça, et moi le matin, je serai occupée avec mes enfants pour l'amener à l'école et je ne pouvais pas les montrer.
Bien sûr. Mais après, on pourra faire les cartes de bus. On pourra faire les cartes de bus pour Martigny aussi.
Oui, pour Martigny, la petite, non.
En fait, ce sera gratuit au départ pour elle.
Ouais.
On sera pas obligé de faire une carte pour Talia au départ.
D'accord.
Et en revanche, il faudra faire une carte pour toi. Comme toi aussi, tu as une carte.
Non.
Non. Eh bien, c'est voilà, toute la famille parle de l'école. Là, ça y est, elle est déjà en train de lui dire, tu vas aller. On va essayer de faire Teresa pour Talia.
Ouais.
C'est qu'on va pas pouvoir l'inscrire à l'école pour maintenant. Mais par contre, en avril, en mars-avril, on fera l'inscription.
D'accord.
Et comme pour Brenda d'ailleurs, pareil, et on ira visiter l'école.
Pour identifier ces familles réparties dans l'agglomération toulousaine, Constance, Caroline et Guillaume travaillent en lien avec des assistantes sociales ou tout autre travailleur social. Mais il leur arrive parfois de les découvrir seuls. Et comme nous le dit Caroline, il suffit bien souvent d'ouvrir les yeux.
Alors en fait, on ouvre nos yeux et on passe aux abords, par exemple sur les bords de Garonne. On a vu plusieurs fois avec ma collègue Constance les familles sur les bords de la Garonne. Eh bien, un jour, on s'est arrêté et on s'est dit, ceux-là, il faut absolument qu'on aille voir. qui il y a. Donc on fait, on va une première fois sur le terrain et on évalue les enfants qui sont non scolarisés. Et c'est comme ça qu'on rencontre, oui, on les trouve. Ceux-là, on les trouve. Il y en a d'autres qui sont trouvés par d'autres personnes. Et il peut y avoir des squats. Et là, on nous appelle et on nous dit qu'il faut aller à tel endroit. Et nous, on se déplace, on va à la rencontre des familles. Ou alors on appelle, on retrouve une famille dont on nous a parlé à un moment précis. On nous a dit, elle est venue peut-être à l'espace social du Grand Ramier. Eh bien, cette famille, elle est venue, mais elle a juste donné son numéro de téléphone. On n'a rien d'autre. Eh bien, nous, on appelle, on laisse des SMS. Là, c'est une famille nigériane, donc elle parle anglais. Donc, moi, j'ai appelé en anglais, j'ai laissé un message, j'ai laissé un SMS. Et voilà, je l'ai eu ce matin au téléphone. Donc oui, en fait, on les trouve parce qu'on va vers eux. En fait, c'est rarement eux qui viennent vers nous. C'est plutôt nous qui allons vers eux. Parce que c'est très compliqué pour des familles de se retrouver dans une ville qu'ils ne connaissent pas, avec une organisation et toutes les formalités administratives qu'il faut faire simplement pour survivre, pour s'inscrire ou pour demander l'asile. Si derrière ils doivent gérer la scolarité, c'est compliqué. Donc il faut les accompagner.
Maintenant, vous avez l'électricité.
Ça va?
Oui. Bonjour.
Vous allez bien, Véronique Rose? Samuel, ça va? Marcel, ça va? Oui.
Vous êtes une personne de
On a rendez-vous pour Andrea. Et le docteur pour Déborah, pour Dorina. En fait, elle va venir à 2h30 aujourd'hui.
Quelques jours plus tard, nous retrouvons Constance. Au nord de Toulouse, elle a rendez-vous avec une famille de Roumains.
Oui, pour le bébé. Mais c'est à 2h avec moi. À 2h et...
Du coup, là, on va rencontrer une famille que j'ai vue déjà une fois, deux fois même. Donc, c'est une famille roumaine avec 7 enfants. Ils attendent le 8e. Ils sont arrivés en septembre. Et leurs enfants ne sont pas encore scolarisés. Donc, avec mon collègue Guillaume, on est déjà venu une première fois pour évaluer, voir les besoins. Et hier, on a fait 3 rendez-vous à la Belle Fontaine pour les 3 élèves d'âge primaire pour envisager l'école. Donc là, l'inscription est partie hier matin pour la maternelle et l'élémentaire, donc pour 4 enfants.
À Belle Fontaine, c'est l'accueil pour évaluer le niveau de français, c'est
voilà,
ça
voilà, exactement. Ah, oui. C'est l'accueil. En fait, c'est pas vraiment pour évaluer leur niveau de français, c'est surtout pour évaluer leur niveau dans leur langue maternelle. Le test est dans leur langue maternelle, en roumain, s'ils savent lire. Et s'ils ne savent pas lire, c'est des tests de graphisme, de découpage, voilà. L'idée, c'est le premier contact avec, quelque part, l'école et d'embrayer sur après une inscription. C'est la première rencontre. Et le test à Bellefontaine ne se font que pour des enfants en âge élémentaire, collège et lycée. Les enfants de maternelle, il n'y a pas besoin de test. Donc hier, on a fait pour 3 enfants. Et dans les inscriptions, on a mis le petit dernier pour la maternelle qui, lui, n'a pas eu besoin de faire ce test. Et aujourd'hui, donc, on va rencontrer cette famille de nouveau pour faire le test pour la grande qui est au collège, qui devrait être en 5e.
D'accord.
Andrea. Donc voilà, ils nous attendent et on a rendez-vous à 1h30 à Bellefontaine. Donc
vous allez la chercher ?
On va aller la chercher, on va y aller avec la famille, on va faire cette rencontre avec le professeur qui va l'accueillir pour voir un peu son parcours, savoir si elle a déjà été scolarisée dans son pays, ce qu'elle est capable de faire. Et en fonction de ce qu'elle sera capable de faire, il va y avoir en fait une possibilité pour elle d'avoir une classe spéciale pour apprendre le français. Alors au collège, on appelle ça des UPE2A, unité pédagogique enfant allophone. Ou si elle n'a jamais été à l'école avant, ça peut être aussi NSA, non scolarisée auparavant. Alors normalement, c'est ce que tout enfant devrait avoir à la fin de ce fameux test. Mais la plupart du temps, il n'y a plus de place dans ces classes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au collège, ils sont affectés sur des collèges ordinaires. Mmh. D'où la difficulté.
D'où la difficulté, c'est ça, certainement. Voilà. Oui.
C'est la difficulté à la fois pour les enfants, mais aussi pour les équipes qui les accueillent. Oui. Parce qu'ils n'ont pas, d'outils pour les... d'outils pédagogiques, même si on est dans la différenciation, ils n'ont pas d'outils pédagogiques forcément pour pouvoir y arriver. Voilà, donc...
Pour eux, la plupart du temps, c'est une première rencontre avec l'école, avec l'institution école.
C'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est elle d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'elle parte trop loin. Je vais voir.
Oui.
Donc oui, c'est la première rencontre, c'est la première rencontre avec aussi la France, avec des personnes ressources qui peuvent les aider. Voilà.
Alors nous arrivons à Bellefontaine, au centre d'accueil, et nous sommes avec la jeune Andrea.
Parce que nous, on ne fait pas passer les tests, en fait. Mais
vous êtes présent quand
il... Oui. Mais après, c'est vrai que ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir suivre le dossier. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui arrivent sur le territoire français, qui n'ont jamais été à l'école en France, elles passent par là. Qu'on soit fils, fille d'ambassadeur ou tout le monde, en fait. Bonjour.
Bonjour.
C'est peut-être fermé. Hein.
Anna, espace d'accueil des élèves nouvellement arrivés.
Merci.
Merci.
Ouais, c'est fermé encore.
C'est fermé.
Ça ouvre à 1h30.
Par respect et par discrétion, nous n'enregistrerons pas la séance au centre d'accueil dont Constance et Caroline nous ont expliqué le fonctionnement. Les tests de calcul, lecture et compréhension dans la langue de l'enfant et selon les résultats et en fonction des places disponibles, l'affectation soit en milieu ordinaire, soit en classe pour allophones, soit encore dans des classes pour enfants qui n'ont jamais été scolarisés.
L'idée, c'est qu'en effet, s'il n'y a pas de place en UPE2A,
ouais,
même en élémentaire, c'est que nous, on puisse trouver l'école qui est la plus proche dans leur secteur de vie et qu'on puisse faire cette demande. Là, par exemple, on est dans le quartier de la Lande, on a fait une demande d'une école de secteur et qu'on puisse voir les transports qui soient les plus adaptés pour eux. Voilà. L'idée, c'est pas d'inscrire pour inscrire, c'est l'idée, c'est qu'ils puissent y aller.
C'est l'accompagnement.
Ouais, on est sur les premières rencontres, donc on crée cette confiance, comme on a pu faire la semaine dernière avec Martini et Talia, avec les familles. On fait ce relais vers l'institution, on accompagne pour les inscriptions. Quelquefois, les familles sont suffisamment autonomes pour aller au rendez-vous avec le directeur et voilà, parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. D'autres, où ils ont plus besoin d'un relais. Et puis, on fait ce relais aussi avec le professeur qui va les accueillir. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est heureux quand on arrive à les mettre dans des classes un peu spéciales parce qu'on sait que la difficulté va être moindre. Mais ça se passe aussi très bien dans d'autres écoles où ils s'adaptent, les enseignants s'adaptent merveilleusement bien quand même, notamment en élémentaire, en différenciant le travail.
Voilà. Vous rencontrez vraiment une réelle coopération, un réel partenariat avec les enseignants, les écoles vers lesquelles vous envoyez tous ces enfants.
Bah oui, puis maintenant, il y a un lien de confiance qui se crée. Donc, il y a des écoles qui accueillent depuis quand même un certain temps. Donc, on a amené plusieurs enfants là-bas. Mmh. Donc, c'est vrai que les enseignantes, maintenant, nous mettent des petits SMS, nous disent « Bon, bah là, c'est difficile, il est absent » ou « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider ?» Voilà, il y a
vraiment des liens. Il y a des liens qui, là.
Voilà, qui dépassent aussi le cadre scolaire, qui sont aussi dans l'humain. Mais ça permet aussi, lors des équipes éducatives, de faire rentrer cette précarité à l'école. Ça va ? Constance, tu te souviens ? Ouais. On vient pour le rendez-vous pour Andrea.
C'est bon.
On arrive dans 5 minutes. Merci.
C'est un pivot à la charnière aussi.
En fait, nous, on voit les familles sur les lieux de vie. Donc, on voit les familles dans leur entité, de ce qu'elles vivent. Après, on ne gère pas l'hébergement, on ne gère pas forcément le côté social. Mais par contre, on peut aiguiller des services, des associations en disant, là, il y a vraiment besoin d'aide. On l'amène, cette précarité, à l'école. Donc, même à l'école, ils le gèrent aussi d'une manière ou d'une autre, avec des collectifs de parents qui se mettent en place aussi. En fait.
Mais vous ne pouvez pas rester uniquement dans le cadre de votre mission.
Non, c'est-à-dire que c'est aussi quelque part la force de notre mission. C'est comme on est sur ces terrains-là. Évidemment, l'idée, c'est d'accompagner. Alors, on voit qu'il y a des choses qui sont quand même des freins à la scolarisation. C'est sûr que si on ne gère pas le problème de transport, si on ne gère pas les vaccins, si on ne gère pas les histoires d'assurance ou tout simplement remplir remplir les papiers pour la cantine, en fait, l'enfant est en déscolarisation ou ils reçoivent des factures parce qu'ils n'ont pas rempli correctement les papiers. Donc, il y a des choses qu'on fait. Parce que si on ne les fait pas, c'est un frein à la scolarisation, ça c'est sûr. Après, on essaie d'être en lien avec des assistantes sociales parce que c'est pas notre boulot non plus d'aller monter des dossiers CAF et c'est pas et on le fera pas, voilà. Mais là, typiquement, quand on voit une famille qui n'a vu personne depuis septembre, qui vit dans un profond dénouement, on fait passer l'information pour que il y ait une prise en charge au niveau de la santé, notamment pour cette famille-là.
L'entrée à l'école, qui a nécessité tant d'énergie et de pugnacité bienveillante, n'est que le tout premier pas vers une vie scolaire qui sera parfois chaotante. Loin de s'arrêter au seuil de l'école, la mission de Constance, Caroline et Guillaume se poursuit bien au-delà. Nous retrouvons à présent Caroline auprès d'une famille roumaine dont l'un des enfants scolarisés dans un des collèges proches de leur lieu de vie ne parvient pas à s'adapter et à intégrer les règles de vie de l'établissement.
En fait, là où on va... sur le terrain, donc sur le lieu de vie d'une famille que j'accompagne dans deux écoles, une pour les petites filles qui sont à l'école élémentaire et le plus grand qui est au collège. Et le collège m'a contacté pour me dire qu'il avait un comportement qui n'était pas adéquat pour un collégien et qu'il était violent. Qu'il avait des mots qui n'étaient pas corrects et que malgré les multiples
avertissements,
ça n'y faisait rien. Donc, comme je l'accompagne, comme c'est moi qui l'ai accompagné à l'inscription et que j'accompagne la famille depuis un certain temps. C'est terminé. Il ne touche plus personne. Aujourd'hui, il tape, il embête
bon
comme
mec.
Ça. D'accord ?
D'accord.
À partir d'aujourd'hui.
Attends. Astăzi zice că mai fac o chestie din astea. Și-o zis că de astăzi, Nicolo.
Fini.
Să nu mai facă.
Să nu mai facă.
S'il veut taper, il tape.
Să dea în ceva.
Il tape l'arbre, il tape par terre, il fait ce qu'il veut. Mais je ne veux plus qu'il touche quelqu'un. En fait, j'ai demandé à un service civique de Melting Pot de nous accompagner parce que je veux que l'enfant ait la version dans sa langue de ce que je vais dire. Pour éviter justement cette barrière de la langue, qui pourrait être un frein à la compréhension. Il n'est pas naïf, hein. Il comprend très très bien, mais il n'a pas les codes. En fait, tous les enfants qu'on suit, enfin la plupart, n'ont pas les codes de l'école. En fait, ils sont dans la survie, ils sont dans le rapport de force tout le temps. Et à l'école, ça se voit. Ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi cet enfant réagit comme ça et essayer de mettre en place... Je sais pas, une organisation. Est-ce qu'il faut que je vienne toutes les semaines pour faire un bilan? Eh bien, s'il faut que je vienne toutes les semaines pour faire un bilan, je viendrai toutes les semaines pour faire un bilan. Au départ, il était dans une classe ordinaire, en collège, en classe ordinaire. Maintenant, il est dans un dispositif UPE2A, unité pédagogique pour élèves allophones et nouvellement arrivés. Où il apprend le français à raison de je sais plus combien d'heures. Enfin, c'est en gros à mi-temps. Et il est inclus dans les classes, dans la classe ordinaire, pour les cours de sport, de PS, peut-être bien de sciences, de musique. Enfin, voilà. On va venir ici, mais d'abord, je vais aller à la sortie de l'école.
Oui.
Mais bien souvent, comme pour les enfants de Teresa, première famille rencontrée, tout se passe beaucoup mieux. Nous sommes avec Constance.
Ils vont tous les jours à l'école, tous les jours, ils ne sont jamais absents. Et, mais ce qui est compliqué, c'est que la carte de bus n'est pas gratuite pour Teresa. Et quelquefois, tu n'as pas de carte de bus valable.
Mais quand
tu
n'as pas de travail, tu n'as rien.
pour ça que c'est important que les enfants aillent à l'école. Oui. C'est important que les petits soient à l'école.
Ça, je pense qu'elle le sait.
Qu'est-ce que j'ai essayé d'expliquer à ma mère. Je lui ai dit, il ne faut pas voir maintenant qu'il pleure le petit. Ouais. Il faut voir qu'il ne pleure pas quand il sera grand.
C'est ça.
Parce que c'est mieux qu'il pleure maintenant que quand il sera grand. Maintenant, il pleure parce qu'il ne veut pas se réveiller le matin.
Non, il est bien avec mamie.
Oui, voilà.
Il est bien.
Mais quand il sera grand, il va dire, mais pourquoi tu ne m'as pas ramené à l'école?
Et oui, c'est important.
La semaine prochaine, avec Constance, Caroline et avec Guillaume, que nous découvrirons, nous poursuivrons notre immersion sur les chemins de l'école.